Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans la série que Patrice Galbeau consacrait à Habib Bourguiba en 1975, c'était plus particulièrement la dimension populaire que le fondateur de la Tunisie moderne, lui-même homme du peuple, avait su donner à son combat politique que mettait en lumière le quatrième de ses 10 épisodes. Le président tunisien y rappelait les circonstances dans lesquelles, dans les années 30, était né son parti, le Néo-Destour, de la volonté de faire du combat pour l'indépendance une lutte populaire, en provoquant la scission au sein du parti de notables qu'était le Destour, dont l'action contre le protectorat français manquait de radicalité en étant coupée du peuple. Dans cette émission, témoignaient deux personnalités qui avaient été elles-mêmes actrices et témoins de la transition, en quelques mois, du protectorat vers l'autonomie, puis l'indépendance de la Tunisie. Roger Seydoux, qui, en sa qualité d'ancien représentant du gouvernement français à Tunis dans les derniers temps du protectorat, saluait le travail remarquable de Bourguiba et de tout le peuple tunisien qui avait rendu possible cette transition dans l'ordre et sans effusion de sang, et Alain Savary, qui avait été en 1956, lors de l'accession des deux pays à l'indépendance, secrétaire d'État chargé des affaires marocaines et tunisiennes dans le gouvernement Guy Mollet. Alain Savary, qui soulignait lui aussi les qualités politiques de son ami Bourguiba, qui avait permis le passage en douceur vers l'indépendance et louait le pragmatisme et le courage de sa politique sociale en évoquant les nouveaux défis que devait encore relever la Tunisie de 1975. Les grands contemporains, Habib Bourguiba, quatrième des 10 épisodes, diffusé la première fois le 6 novembre 1975 sur France Culture.
L'entretien d'aujourd'hui, c'est au palais de Carthage que le président Bourguiba me l'a accordé, ce beau palais face à la Méditerranée. Je me suis trouvé dans son célèbre bureau, un peu écrasé par l'honneur qui m'est fait, car c'est ici que depuis tant d'années, tant de chefs d'État viennent chercher des conseils auprès du combattant suprême, infatigable médiateur, c'est ici que tant de personnes illustres viennent saluer le chef de l'État tunisien. Ce bureau, je voudrais vous en dire un mot, car il est très important dans la vie du président. C'est là, en effet, que sont réunis ses plus précieux souvenirs. Le président est là, il est assis derrière sa table de travail, de style empire, comme tout le mobilier. Il y a à sa droite, sur sa hampe, le drapeau tunisien. Il y a des fleurs, des livres, mais surtout, il y a sur le panneau, qui est en face du président, et qu'il a donc constamment sous les yeux, il y a un grand nombre de photographies encadrées. Ce sont les photographies des compagnons de Bourguiba, presque tous déjà disparus maintenant. Monsieur le Président, je voulais vous demander de poursuivre le récit de votre vie exceptionnelle et de nous parler, si vous le voulez bien, de la position du Destour dans les années 30.
À ce moment-là, l'histoire se fait du hasard. Le vieux parti destourien qui remonte, n'est-ce pas, à 1920, qui ne fichait rien, ils sont des gros bourgeois, n'est-ce pas, qui parlaient, n'est-ce pas, faisaient des vers, mais ils ne voulaient pas se mélanger avec le peuple, n'est-ce pas. Pour eux, le peuple, n'est-ce pas, c'est des gens avec lesquels on ne doit pas se mélanger, n'est-ce pas, parce qu'ils peuvent faire des gaffes, Moi, au contraire, ma stratégie, c'est de faire marcher le peuple, n'est-ce pas ? C'est comme le bâton et la carotte, d'accepter les solutions de compromis, n'est-ce pas ? Mais d'avoir, n'est-ce pas, une force susceptible de peser sur la décision de la France. Eh bien, en faisant intervenir le peuple dans cette question naturalisée, nous avons gagné à peu près la partie. C'était notre première victoire, n'est-ce pas ? Puisque nous avons obligé la France, n'est-ce pas, à céder et a accordé l'inhumation dans un parc séparé, un endroit séparé, qui ne faisait pas l'affaire des naturalisés. Le 12 mai 1933, le vieux Destour fait son congrès. 12 mai, c'est l'anniversaire du protectorat. Le protectorat, c'est le 12 mai 81. C'est le 12 mai 1933. 33 et 20, 53, enfin, 53e anniversaire. Ce journal, La Voix tunisienne, qui était quotidien, était tellement lu, n'est-ce pas, il était tellement populaire, que les congressistes, n'est-ce pas, du parti, réunis, n'est-ce pas, à Tunis, ont décidé de faire entrer toute l'équipe de La Voix des Tunisiens, n'est-ce pas, dans la commission exécutive du parti. Nous avons accepté, nous sommes restés pendant quelque temps. Puis, il y a eu des difficultés, n'est-ce pas, ensemble. On n'était pas sur la même longueur d'onde. À la suite d'un blâme qui m'a été voté, n'est-ce pas, parce que j'ai conduit une délégation de monastériens à Obé, parce qu'il y a eu des incidents. La naturalisée qui est mort, justement, au mois d'août. Alors, au mois d'août, c'était après la décision de M. Manseron. Mais cette décision, les Français ne la voulaient pas. Et ils ont obtenu le renvoi de Manseron, n'est-ce pas, et la nomination de M. Perroton, qui était un homme à poigne, on l'appelait le satrape, n'est-ce pas. Alors M. Perroton, n'est-ce pas, a envoyé une circulaire confidentielle aux résidents généraux, leur disant toutes les fois qu'il y a possibilité, n'est-ce pas, d'enterrer dans les cimetières musulmans, sans créer, n'est-ce pas, de bagarre, n'est-ce pas, de le faire, n'est-ce pas, essayer de revenir un peu sur cette décision qui a été prise par Manseron, qu'on considérait comme un homme faible. Et il a essayé de faire ça à Monastir. Le Monastir, il y a eu justement au mois d'août un naturalisé qui est mort. Et le contrôleur civil a amené l'armée et il a obligé, n'est-ce pas, on lui a dit bon, on va l'enterrer avec les musulmans parce que nous n'avons pas eu le temps de fixer un endroit à part, n'est-ce pas? Mais le prochain, on leur dira à la foule, le prochain sera enterré sur un lopin à part. Il a dit non, celui-là est le suivant et le suivant. Et alors il y a eu un accrochage, il y a eu un mort, n'est-ce pas, par l'armée. Alors les monastériens sont venus me consulter à Tunis. Je les ai amenés au B. Et c'est à cause de ça, n'est-ce pas, que j'ai reçu un blâme de la commission exécutive. Alors je dis tout de même, je ne suis pas allé comme destourien, comme chef destourien, moi je suis allé comme avocat. Alors j'ai préféré donner ma démission. Je dis, il ne voulait pas de moi. Alors, si ma nouvelle qualité de membre de la commission exécutive devait me lier même, j'ai demandé l'autorisation d'accepter une affaire, d'accepter d'aller au B. C'est comme ça qu'il y a eu une scission. J'ai démissionné. Et puis les autres, mes camarades de Lyon, ont démissionné aussi, n'est-ce pas? Et nous avons fondé le Néo-Destour. Néo-Destour, nous avons expulsé, n'est-ce pas, les anciens, n'est-ce pas? Eux, ils nous ont expulsés. Le congrès Xaralal, qui a eu lieu le 2 mars 34, les a expulsés du parti. Et nous sommes entrés alors dans la lutte.
Monsieur Roger Seydoux, vous avez été résident, ambassadeur, haut-commissaire de France en Tunisie. De quand date votre première rencontre avec le président Bourguiba?
Bien, je crois que pour la première fois, je l'ai rencontré chez un Français qui s'appelait Monsieur Lévy Despas, qui est mort il y a peu de temps, et qui était le président de grandes entreprises françaises en Tunisie, et qui m'avait fait savoir que Monsieur Bourguiba désirait me rencontrer de façon tout à fait privée. Et c'est ce jour-là que nous avons fait connaissance pour la première fois. Et la première phrase que m'a adressée M. Bourguiba, c'est de me dire « Monsieur Seydoux, vous n'étiez pas mon candidat. Maintenant, vous êtes au commissaire, nous allons tâcher de nous entendre. » Et je dois dire que pendant toute la période que j'ai passée en Tunisie, nos relations, souvent difficiles, souvent orageuses, sont toujours restées courtoises, cordial et avec le désir de faire en sorte que d'abord l'autonomie interne, puis l'indépendance se passe dans de bonnes conditions.
Comment vous êtes apparu à cette époque-là, Habib Bourguiba ?
Bourguiba, n'est-ce pas, était un homme qui avait déjà sa légende. Il était considéré comme un homme qui avait lutté pendant plusieurs années, et même plus que 10 années, pour l'indépendance de son pays. Il avait été enfermé dans les prisons françaises, il avait fait des discours contre la France d'ailleurs, il avait cherché même à soulever l'opinion arabe, il s'était rendu à ce sujet en Égypte, également contre notre pays. Il avait donc son histoire, il avait son passé. Pour moi, c'était un homme qui avait joué un rôle important, et c'était un homme qui m'est apparu tout de suite comme un homme de contact facile, moins arabe à bien des égards que méditerranéen dans le contact, dans l'approche, dans la façon de s'exprimer, mais avec lequel les échanges de vues étaient parfois très, très heurtés, très violents, mais étaient aussi compensés par des périodes d'entente où au contraire on arrivait à travailler de façon constructive. À ce moment-là, ce qui m'avait frappé aussi, c'est que c'était un homme, et c'était d'ailleurs normal, qui n'avait aucune expérience de l'administration, n'est-ce pas ? Il arrivait avec comme je l'ai dit, son passé de combattant, de résistant, c'était un orateur, mais c'était un homme qui n'avait jamais eu d'expérience administrative directe. Et tout ce qui était papier, protocole, accord, convention, ne le passionnait pas. C'était pour lui des moyens d'accéder à une situation meilleure pour son pays, mais ça n'était pas sur les accords ou sur les traités qu'on pouvait conclure que reposaient en définitive les relations entre la Tunisie et la France.
Quelle était la situation exacte entre la Tunisie et la France à ce moment-là ?
Bon, c'était une situation qui était assez complexe, n'est-ce pas ? Quand je suis arrivé en Tunisie, c'était encore le protectorat, mais M. Malès-France avait fait le fameux discours de Carthage. Et en Tunisie, les Tunisiens comme les Français se rendaient bien compte que les choses avaient changé. Mais c'était encore l'administration française et c'était l'établissement français dans toute son ampleur. Et puis, lorsque les accords d'autonomie interne ont été signés en 1955 et qu'on a constitué un gouvernement entièrement tunisien, la France ne gardant pour elle que la défense nationale et que les affaires étrangères, et un certain contrôle sur l'administration, alors il est apparu très vite que c'était une autre Tunisie qui émergeait. Et je dois dire que pour des hommes comme moi, la rapidité avec laquelle le peuple tunisien, encadré par le Destour, dirigé par Bourguiba, a pris le contrôle de ce pays est un phénomène assez remarquable. Parce que tout ceci s'est passé, il faut bien le reconnaître, sans qu'il y eût de sang versé, il y a eu naturellement des petites bavures, mais dans l'ensemble, cette évolution s'est faite très rapidement, mais dans l'ordre et dans le calme. Et le tout entièrement dirigé par Bourguiba. C'est dire que quand Bourguiba affirme qu'il s'est servi du peuple pour faire céder la France, dans une très large mesure, il a raison. Mais les choses se sont passées dans l'ordre.
Ce besoin de contact avec le peuple, cet amour du peuple, le président Bourguiba l'a toujours eu et l'aura toujours. J'ai remarqué au cours des entretiens que j'ai eu avec lui que ce beau regard bleu dont on a tellement parlé, ce regard qui est dur parfois, un peu glacé, s'attendrit lorsqu'il parle de son peuple. Mais dans ce regard bleu, j'ai vu autre chose, ou j'ai cru voir autre chose aussi par moments, c'est de la tristesse. Mais ça, je voudrais en parler avec M. Eddy Mabrouk, qui est ambassadeur de Tunisie en France. Monsieur l'ambassadeur, ne pensez-vous pas que cette tristesse qui passe parfois dans le regard du président est due aux souffrances qu'il a endurées ?
Oui, la lutte a été longue, elle a été dure, elle a été très dure. C'est un homme qui a connu des épreuves que peu d'hommes ont pu connaître dans leur existence. La détention, l'exil, la solitude. Et comme vous venez de dire également, parfois, l'inconstance de ceux qui n'avaient pas un souffle aussi, aussi puissant que le sien et qui, en cours de chemin, se sont écartés. Je crois que ce qui le fait particulièrement souffrir, ce n'est pas du tout de voir des gens en cours de route s'arrêter, mais c'est de voir des gens qui, en cours de route, essaient de contrecarrer ce qu'il fait. Non seulement qu'ils abandonnent le combat, mais que parfois, ils deviennent un obstacle pour le combat que menait Bourguiba. Mais le président est un homme gay. Le président est un homme qui, dans des conversations, contrairement à ce que l'on peut croire, dans des conversations, dans des réunions, est un homme qui a une ouverture d'esprit et une tendance à converser d'une manière très ouverte, sans solennité, sans cérémonial, évoquant des histoires, des anecdotes, taquinant un peu l'humour avec beaucoup d'ailleurs de talent. Ce n'est pas du tout un homme fermé, ce n'est pas du tout un homme taciturne, c'est un homme gay. Et je vous assure que les heures que j'ai le privilège, que j'ai l'honneur de passer auprès de lui, que j'ai eu l'honneur de passer récemment quand il était venu se reposer en France, là je vous dirai avec quel empressement il vient se reposer en France, il se sent bien ici en France, eh bien ce sont des heures inoubliables. Il a étonné beaucoup de gens à Bride-les-Bains quand il a passé ce petit séjour à Bride-les-Bains à jouer à la pétanque avec des hommes du peuple, parce que c'est un homme du peuple. Et les gens étaient véritablement émus de le voir jouer d'une manière aussi simple, aussi naturelle. Lui, chef d'État et chef d'État prestigieux, avec des gens qui, eux, ont un rôle social plus modeste, toujours respectable, évidemment, plus modeste. Et discuter fermement avec eux, de la distance des boules, etc., c'est vous dire que c'est un homme qui n'est pas du tout solennel. C'est un homme qui est plus ouvert à l'amitié, à la sympathie, plus humain. Et c'est un aspect de Bourguiba qu'il faut connaître. Et quand on connaît vraiment Bourguiba.
Sidi Mabrouk, ambassadeur de Tunisie en France, vient d'évoquer certains traits de caractère du président Bourguiba, des traits de caractère que l'on connaît peu. Il y a quelqu'un d'autre qui a bien connu aussi le président, à qui je voudrais demander de nous parler de lui. C'est M. Alain Savary, ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, un des hommes qui ont apporté l'indépendance à la Tunisie. Il faut d'ailleurs préciser à ce sujet qu'il y a, à Tunis, une rue Alain Savary. Vous savez, Monsieur le Ministre, que cette série d'émissions est consacrée au président Bourguiba. C'est un peu un hommage parce que c'est un grand chef d'État, c'est un ami de la France. Et il dit souvent que sa plus grande victoire, c'est d'avoir su conquérir l'estime et l'amitié de ceux qu'il a été obligé de combattre pendant si longtemps. Mais c'est une série d'émissions qui est destinée aussi un petit peu à cerner le personnage qu'il est dans la vie. Je voudrais vous demander ce que vous pensez de lui, de son caractère.
Il est toujours difficile de parler d'un chef d'État et d'un ami. Il ne faut pas risquer la flagornerie. Il y a une chose extraordinaire chez lui, c'est ses yeux. Et l'intensité de son regard. D'autre part, sa mémoire est extraordinaire. Mais tout ceci sont des traits personnels. Ce qui me frappe le plus, c'est son sens des responsabilités. Il a toujours su mesurer ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Et donc définir une politique susceptible d'être appliquée, finalement, sans effusion de sang. Parce que la lutte qu'il a menée a été essentiellement une lutte politique. Et en sachant qu'il pouvait faire appel en France à un esprit d'évolution pacifique où les droits tunisiens seraient reconnus et retenus, mais aussi où il avait des partenaires qui avaient conscience des intérêts français. Ça, il l'a compris, et je crois que c'est l'hommage qu'on peut lui rendre, de même qu'à l'intérieur de son pays, il s'est efforcé avec des objectifs très ambitieux, d'être aussi pragmatique pour l'évolution sociale. Son combat pour l'émancipation de la femme est un combat que peu de dirigeants d'États musulmans ont mené avec autant de persévérance. D'autre part, son attitude à la fois respectueuse de l'islam, mais aussi évolutive en ce qui concerne, par exemple, l'application du ramadan, a été très courageux. Dans cette affaire, il a dû reculer à certains moments, faute de compréhension de sa propre opinion et des milieux les plus traditionnalistes, et il est certain qu'il a pris constamment des risques, à la fois dans son cheminement extérieur, car il ne demandait pas tout de suite, et en même temps dans sa politique intérieure, car il tentait de transformer les mœurs, ce qui est la chose la plus difficile où que ce soit. Et à mes yeux, c'est ce double caractère qui font de lui un personnage très important et dont, je crois, le souvenir restera marqué dans les esprits.
Je voudrais vous poser une dernière question, si vous voulez bien. Le régime politique tunisien est-il véritablement un régime socialiste?
Vous savez que les peuples d'outre-mer prennent volontiers le terme socialiste, mais ils affirment tous que c'est leur socialisme et non pas la copie d'un modèle. Et les Tunisiens l'ont dit dès le début. Et il est certain qu'il y a un refus et un rejet de tout transfert de solutions européennes ou d'autres régions aux problèmes tunisiens. Ils se veulent pour le socialisme tunisien. Ce que cela donnera, c'est difficile de le prévoir. Il est probable qu'il y a des efforts plus grands à faire pour réduire les inégalités et également répondre aux aspirations de la jeunesse, car comme tout régime établi et assis, il y a parfois des retards à comprendre que les générations actuelles n'ont pas les mêmes aspirations que celles qui ont obtenu l'indépendance. L'indépendance, elle est acquise et on ne peut pas vivre de cela. Le combat pour l'indépendance économique, ou plutôt l'évolution économique et le progrès, est en cours, mais il n'est pas gagné. Et c'est certainement le problème du régime actuel que de répondre à ce défi historique.
La jeunesse, Monsieur le Président, on le sait, vous le dites, la jeunesse c'est un de vos grands soucis et un de vos grands espoirs, la jeunesse tunisienne en particulier. Et dans tous les pays du monde, les jeunes demandent le droit d'user de leur liberté. Votre opinion à ce sujet?
Oui, oui, la liberté, nous sommes pour la liberté, pour la démocratie, mais une démocratie ne doit pas être la démagogie, n'est-ce pas? Nous avons un parti unique, mais au sein du parti, il y a des discussions, il y a des controverses, n'est-ce pas ? Nous acceptons, n'est-ce pas, la discussion, et nous finissons toujours par nous entendre, même si ce n'est pas l'unanimité, c'est la majorité. Et ce parti, n'est-ce pas, est tellement collé au peuple depuis le temps, n'est-ce pas ? Et c'est lui qui a fait tout, n'est-ce pas, pour ce peuple, qui a réalisé ce miracle, parce que à ce moment-là, ça paraissait un miracle, étant donné la disproportion des forces entre la France et la Tunisie. Eh bien, chez nous, n'est-ce pas, il y a une raison de vivre. Les gens ont une raison de vivre. Maintenant qu'ils sont indépendants, ils veulent, n'est-ce pas, se développer. Nous dépensons le tiers de notre budget pour l'éducation nationale, l'autre tiers pour la santé, n'est-ce pas. Nous défonçons très peu pour l'armée, nous ne nous sentons pas en danger, n'est-ce pas ? Y a évidemment une armée, n'est-ce pas, avec des tanks, des canons, n'est-ce pas, des missiles, mais elle est peu de choses, elle représente 7% du budget, n'est-ce pas, 8%, alors que 33% pour l'éducation nationale. Ça nous pose des problèmes, le problème des ratés, le problème qui n'arrive pas jusqu'au bout. Alors on leur crée des écoles professionnelles, ils apprennent le métier, l'agriculture, n'est-ce pas, maçon, n'est-ce pas, chauffagiste, n'est-ce pas. Tout ça, c'est aussi important. Ce sont les, ce qu'on appelle les cadres moyens. Les cadres moyens, on ne peut pas vivre sans cadres moyens, n'est-ce pas. Et nous envoyons des instituteurs, n'est-ce pas, et des ingénieurs dans les pays, n'est-ce pas, en Algérie, en Libye, n'est-ce pas, dans les pays du Golfe. Au Koweït, n'est-ce pas, au Bahreïn, n'est-ce pas. Et nous avons même une coopération triangulaire avec la France. La France, n'est-ce pas, l'Arabie Saoudite a donné tous ses services de communication téléphonique, n'est-ce pas, à des compagnies françaises. Alors ces compagnies françaises prennent des Tunisiens, n'est-ce pas, qui sont musulmans et qui parlent français, n'est-ce pas. Et comme ça, nous faisons apprendre le français, n'est-ce pas, aux Saoudiens.
Vous venez d'entendre le quatrième des 10 épisodes que Patrice Galbaud consacrait à Habib Bourguiba dans son émission Les Grands Contemporains. Première diffusion le 6 novembre 1975 sur France Culture. À suivre.